Silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.redem.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien, comment vas-tu?
Ça va bien et toi?
Oh oui, ben tu sais, quand on retrouve nos auditeurs, tous les deux on est bien contents. Hein, on est même ravis, merci de nous recevoir chez vous, en tout cas, si vous y êtes, sinon on a les podcasts. Hein. D'ailleurs, Damien vous le dira à la fin, vous pouvez quand même écouter toutes nos émissions, hein, pas que celle-ci, en podcast si vous n'êtes pas devant votre poste, ou dans la voiture aussi. Moi, j'écoute beaucoup dans la voiture.
Dans la voiture ou le tracteur, ah, ou dans tout moyen de locomotion, c'est possible que ce soit chez soi, dans le jardin ou partout, et la radio nous permet d'être en contact un peu partout
en
avec vous.
En marchant aussi, ça m'arrive, j'ai ma petite radio, je mets mes petits trucs dans les oreilles. Hein, on peut écouter la radio partout, c'est la différence avec la télévision.
C'est ça. Et donc, nous venons vous parler grand écran. Nous parlons cinéma durant 7 heures. Oui. Et aujourd'hui, on va commencer l'émission avec un film japonais ou coréen qui s'appelle Jujutsu Kaisen Movie O. C'est un manga. Alors, de quelle nationalité est ce manga?
C'est un sacré... Ben, c'est japonais. C'est japonais puisqu'ils sont trois, quatre même, carrément. Il y a Park Sung-ho, qui est un réalisateur, producteur japonais. Il y a Hiroshi Seko, qui est un sénateur. Je vais recommencer l'histoire du sénateur, moi. Scénariste, ça m'était déjà arrivé. Créateur japonais. Et on a Gege Akutami, qui est un auteur japonais, qui travaille avec eux. Enfin, ils se travaillent ensemble et ils font de très jolies choses pour les amateurs de ce genre de films.
Alors, Jujutsu Kaisen O est un film de type manga, mais ce n'est pas forcément pour les enfants.
Ah non, 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 celui-là, il faut déjà avoir, je dirais 12-14 ans. Ça dépend de l'enfant, hein. Il y a des enfants qui... Ça dépend. C'est d'animation, il y a de l'action, il y a du drame, il y a du fantastique, il y a un peu de tout, ça dure quand même 1h45. Donc c'est vrai qu'il faut que... Le jeune, même s'il a 12, 13 ans, 14 ans, il faut qu'il soit un petit peu costaud dans sa tête, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Alors, on nous dit, on va se faire une promesse quand on sera grand. Toi et moi, on se mariera. Ah, qui a dit ça? Depuis, Rika, c'est elle, vient hanter Yuta, qui a même souhaité sa propre mort après avoir souffert des années de cette malédiction, jusqu'au jour où le plus puissant des exorcistes, Satoru Gojo, l'a accueilli dans l'école d'exorcisme. Yuta fait la connaissance des camarades Maki Zenin, Maki Zenin, le plus... Toge, ah pardon, c'est parce que les noms, je bute un peu sur le japonais, là, je vais m'y mettre en japonais. Donc on a Maki Zenin, on a Toge Inumaki, et aussi le panda. Donc, elle trouve enfin un nouveau sens à sa vie lorsqu'elle les rencontre. Je deviendrai exorciste pour libérer Rika de sa malédiction. Pendant ce temps, un certain Suguru Geto agit dans l'ombre. Cet ancien élève expulsé de l'école après avoir massacré des gens ordinaires apparaît devant Yuta et ses amis. Le 24 décembre prochain, nous allons organiser la plus grande parade des fléaux. Geto prône, c'est un des amis, hein, Geto prône la création d'un monde réservé à ceux qui possèdent des pouvoirs occultes. Ainsi, il projette de déchaîner un millier de malédictions sur Shinjuku et Kyoto, pour exterminer tous les non-exorcistes. Yula sera-t-il capable d'arrêter Ghetto? Et qu'adviendra-t-il de la malédiction de Rika? Donc c'est bien dit hein, que c'était dramatique, il y avait du fantastique aussi, puisqu'il s'agit d'exorcisme et de malédiction. Mais il est très bien fait. Pour les amateurs, il est vraiment très bien fait. C'est tout à fait ce qu'ils aiment. Bon, ben, il faut aimer, hein, il faut aimer ce genre de film. Alors, il y a un avertissement, ben oui, j'aurais dû même le dire tout de suite. Hein. Des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Ouais. Ben oui, donc j'enlève 12 ans et je mets 14, hein, en minimum.
Oui, je pense, oui.
Je pense, hein, quand même. Mais les images sont très belles, les dessins sont très beaux. Moi, j'aime beaucoup, mais bon, je ne sais pas celui-là, mais j'aime beaucoup ses dessins, moi. Les mangas, j'aime ça. Je ne sais pas, toi, Damien.
Oui, ça dépend des mangas.
Les visages.
Ceux qui sont trop fantastiques et d'horreur, là, ce n'est pas, c'est pas forcément ma tasse de thé.
Celui-là, mais bon. Il est exorcisme et malédiction. Bon, oh, bah, c'est du cinéma.
C'est ça.
Mais chérie, ce n'est que du cinéma.
Oui, après, la technique est très, très belle.
Faut pas s'affoler, ce n'est que du cinéma.
Et donc, ça s'appelle Jujutsu Kaisen O.
Oui. Bah, d'ailleurs, tous les films dont on va parler là, c'est du cinéma. Il faut bien garder ça quand même à l'esprit. Hein. On n'est pas dans la réalité. Enfin, pas complètement. Avec les documentaires, oui, parfois. Mais pas avec les longs-métrages de fiction. C'est du cinéma. Hein. Faut rester comme ça. Il faut prendre ça un petit peu hein, au quatrième degré, au cinquième degré.
Et maintenant, ça va être un film de Nadège Loiseau que nous allons retrouver, qui s'appelle « Trois fois rien ».
Oui, alors, là on change de registre. Hein.
Oui, là on est sur une comédie.
Ah oui, on est sur une comédie.
Comédie française.
« Trois fois rien », il y a 3 nominations au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Ça dure 1h34. Et oui, Nadège Loiseau, mais oui, tu l'as dit, réalisatrice, sénatrice... Voilà, ça recommence. Scénariste, je fais de la politique. Mais c'est peut-être, on en parle beaucoup en ce moment.
C'est la période.
C'est peut-être pour ça. Elle a 45 ans, elle est française, Nadège Loiseau. Mais on lui doit déjà en 2012 d'abord, Le Locataire. C'est un film qui a très bien marché avec Fabienne Babe et Stéphane Vokovitz. C'était l'histoire d'une femme de 50 ans. Nicole, elle s'appelle, qui était grand-mère, qui était une grand-mère dynamique et qui est confrontée à une nouvelle grossesse. C'était ça, Le Locataire. Mais il a été très bien reçu. C'est un court moyen, un court-métrage, quoi, qui a très, très bien marché, bien reçu par la critique, surtout. Il durait 27 minutes. Et en 2016, alors, Nadège Loiseau est toujours dans les mêmes thèmes. En 2016, c'était un long-métrage qui s'appelle « Le Petit Locataire ». Et qui était pareil, hein, ça a très très bien marché. C'est l'histoire de Nicole, c'est encore une Nicole, c'est un prénom qu'elle aime sans doute. Nicole, 49 ans, est enceinte, toute la famille est sans dessus-dessous. Et il y avait la formidable Karine Viard dans le rôle principal. Il y avait Philippe Rebaud aussi, qui jouait l'époux et le futur papa. Il y avait une nomination à Angoulême. Et alors là, trois fois rien, c'est l'histoire de... Alors ils sont trois au départ, il y a Brindille, il y a Casquette. Et il y a la flèche, qui vivent comme ils peuvent, au jour le jour, dans le bois de Vincennes. Mais leur situation précaire devrait changer, du tout au tout, le jour où ils gagnent au loto. Oui, mais il faut savoir que quand on gagne au loto, il faut pouvoir encaisser l'argent. Et pour encaisser l'argent, il faut avoir un domicile, il faut avoir une carte d'identité, il faut avoir un compte bancaire, etc., etc. Alors eux, c'est sans domicile fixe, pas de carte d'identité et pas de compte bancaire. Alors, pas de paiement. C'est quand même terrible. Donc voilà, on a... Alors, dans les rôles principaux, on a Émilie Caen. Alors, Émilie Caen, on la connaît parce que... Oh, mes chéris, vous avez dû au moins voir, je suppose, un des « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Je suppose. Il y en a eu trois quand même. Maintenant, il y en a trois. Hein. Mais elle joue le rôle de la... Elle est la femme de Chao. Et elle est... c'est Ségolène. Voilà. Dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Comme c'est assez récent, on s'en souvient encore, je suppose. Donc, c'est Ségolène, la femme de Chao, qui joue. Et c'est Émilie Caen, qui est une excellente actrice, qui a le rôle là, qui a le rôle principal. Mais c'était pour la situer, hein, Émilie Caen, parce que peut-être qu'on n'a pas retenu son nom tout à fait. Par contre, quand on la voit, on la reconnaît aussitôt. Alors ensuite, on a Brindille. Alors c'est Philippe Rebaud. Bah oui, encore lui. Oh, Nadège Loiseau. J'ai l'impression que c'est un acteur
Qu'elle apprécie.
qu'elle apprécie absolument. Et puis on a Antoine Casquette, c'est Antoine Bertrand. Pareil, hein, il a déjà travaillé avec Nadège Loiseau. Et La Flèche, c'est Côme Levin. Alors Côme Levin, on l'a vu dans un tas de séries à la télévision. Il a toujours des. Il est un petit gars, blondinet. On le reconnaît en
Un peu
fait.
rouquin, ouais.
Ouais, quand on le voit, Oui, un peu rouquin plutôt.
Et Antoine Bertrand, dans
Oui.
le film, il a un gros accent québécois. Alors,
Ah
est-il québécois ou
oui.
il est français?
Il est, oui, voilà. Et c'est ça. Et en même temps, il est excellent, quoi. C'est vraiment elle a fait un casting extrêmement chouette, là, Nadège Loiseau. Puis on a aussi, alors, dans d'autres rôles, on a Nadège Beaumont-Diane. On la connaît, Nadège Beaumont-Diane. On la connaît. On la voit souvent dans les séries et dans des émissions de Je bégaye télévisées. On a Yviane aussi qui joue. On a Thibault Fraisse. On a Axel Simon. On a Yiling Yang. Alors elle, c'est une actrice taïwanaise. Yiling Yang qui est dans le film là. On a Hubert Mion. On a Axel Simon. Que des visages qu'on connaît quand même en fait. Hein. Si on est habitué à aller au cinéma, on les reconnaît. Bon, même si on n'a pas retenu trop leur nom, on les reconnaît quand même. Ah oui, c'est une comédie très sympathique. Alors, Nadège Loiseau avait fait la connaissance il y a une vingtaine d'années, c'est ce qu'elle nous dit, hein, avec des SDF qui occupaient le bois de Vincennes. Alors, ils ont été en fait sa référence pour justement nourrir les personnages du film. D'ailleurs, elle nous dit, ce film, je leur dois sûrement, alors que je ne connais même pas leur prénom. Eh oui. Elle a voulu traiter de la précarité en racontant cette histoire d'amitié entre trois marginaux. Elle dit qu'elle trouve important que la comédie s'empare de sujets durs qui sont reliés à notre quotidien et que ça puisse faire rire quand même malgré la gravité des situations évoquées. Ça, c'est ce qu'elle dit, hein, c'est Nadège Loiseau, hein, je reprends ce qu'elle a dit en interview. Alors voilà, ben on a retrouvé les trois acteurs du Petit Locataire. Justement, il y avait Antoine Bertrand, mais c'est ce que je disais, hein. Côme Levin, Philippe Rebaud, les petits chéris de Nadège Loiseau. Et dans le film, Nadège Loiseau dirige un chien. Ah, si vous aimez les animaux, on peut dire que c'est le quatrième personnage, le chien du film. Alors il a un nom quand même assez étonnant. Dans le film, il s'appelle Connard. Je suis désolée. Hey, tu sais, Damien, c'est un gros mot que je dis rarement quand même. Jamais même.
En même temps, c'est un prénom, là,
C'est
donc
pas joli.
on
Et là,
peut
c'est le
dire.
nom du chien qui est adorable d'ailleurs. Alors, il est donc, j'ai dit, hein, le quatrième personnage, c'est un chien de compétition. Et son vrai nom, c'est Max. Dans la vie, il s'appelle Max. Et comme acteur, il s'appelle Connard. Et en fait, c'est un chien, elle nous dit en tout cas que c'est un chien extrêmement précis, mais un brin psychorigide. Alors, par exemple, on peut pas faire d'impro avec lui. Si on change une scène qu'il a jouée déjà la veille et qu'on la refait, si on n'a pas fait exactement, si on n'est pas exactement à la même place et qu'on ne fait pas les mêmes choses, il veut pas. Il s'arrête.
Oui, il est un peu capricieux.
Voilà, il est psychorigide, elle nous
Ouais.
dit. Alors, c'est titré, une comédie touchante, des acteurs brillants, on rit, on pleure, on applaudit. Moi, je vous incite à y aller, mes chéris, parce qu'on vit une période qui est quand même extrêmement sombre. Hein, parce que voilà, on n'a que des mauvaises nouvelles quand même qui nous arrivent. Et ça ferait du bien, je pense. Ça peut faire du bien d'aller voir cette comédie. Voilà. Ah oui, au fait, le compositeur du film, c'est son frère. Il s'appelle Guillaume Loiseau. Voilà, et son frère et sœur. 1h34, ça peut détendre quand même, franchement.
Et ça s'appelle Trois fois rien, et
Trois fois rien.
c'est sorti aujourd'hui au
Mais
cinéma. Et
oui.
maintenant, nous allons continuer avec un drame français
Oui.
également,
Oui.
avec
À plein
donc
temps, tu as dit?
c'est un drame
Non, il n'a
d'Éric
pas dit.
Gravel. J'y arrive. C'est Éric Gravel qui réalise ce film avec une actrice que tu apprécies, qui s'appelle Laure Calamy, et c'est
Bah,
un film
on l'aime
qui s'appelle
énormément.
donc À plein temps.
On l'aime énormément, Laure Calamy, là. Elle est formidable. Elle sait tout faire, cette actrice. Elle tourne beaucoup et on est ravis qu'elle tourne beaucoup, parce qu'elle le mérite absolument. Donc, À plein temps, oui, ça dure 1h25. Tu l'as dit, un drame français de Éric Gravel. C'est un réalisateur scénariste québécois. En fait, il est franco-canadien-québécois. Et là, eh ben oui, tu vois, on est jaloux quand on a une seule nationalité, hein, parce que là, c'est formidable. Enfin, Québécois, Canadien, c'est la même chose, en fait. Hein. Bon, c'est Canada, on va pas. Donc, il a, lui, c'est son deuxième long métrage à plein temps. Alors, on lui doit en 2017 un film qui s'appelle Crash Test Aglaé, pardon. Crash Test Aglaé. Voilà, il y avait Julie Depardieu, il y avait Yonan Moreau, des actrices qu'on adore aussi. Et c'était l'histoire d'une ouvrière, une jeune ouvrière psychorigide, ben comme le chien, hein, comme le chien Max dont on a parlé, psychorigide, et qui accepte, pardon, de partir travailler aux Indes lorsque son usine délocalise sauvagement. Et en fait, ça aboutit à une improbable quête personnelle. Et ce film-là, on en avait parlé, je m'en souviens très bien, de ce voyage aux Indes pour travailler et toutes les déconvenues, évidemment, qui vont suivre tout ce que, elles sont trois à partir. Il y a Yolande Moreau également, voilà. Et puis en 2007, elle avait réalisé un court-métrage qui avait très bien marché, qui lui avait permis de se lancer dans le long-métrage. Donc Julie, dans un plein temps, on va dire que Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports. Et c'est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course effrénée au risque de sombrer. Alors c'est Laure Calamy, Julie, hein, puisqu'on a parlé d'elle. On a Anne Suarez dans ce film également. Alors en ce moment, vous pouvez la revoir, c'est sur la chaîne 25, je crois. On repasse la série policière K1. Et elle joue l'ex-femme de Caïn, Gaëlle. Elle s'appelle Gaëlle dans le film. Et Caïn est toujours amoureux de son ex-femme. Donc, il se voit souvent. On la voit, c'est elle, Anne Suarez. Pleine de talent et très jolie en plus. Voilà, c'était pour la situer. Parce que son nom n'est pas encore trop connu. Mais par contre, elle, quand on la voit, on a déjà pu l'apprécier dans pas mal de choses. Mais là, en ce moment, elle revient dans Caïn sur la 25. Ah oui, alors on a Geneviève Niche aussi, on a Cyril Gay. Alors lui, Cyril Gay, on l'a beaucoup vu en 2013 dans la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Il était le médecin légiste, Timothée Glissant, il s'appelait le médecin. Et c'était Cyril Gay qui jouait le rôle. On l'a beaucoup vu, il était assez formidable, plein d'humour. C'était le médecin légiste qui écoute de la musique pendant qu'il travaille. Ce qui agaçait le commissaire, qui chaque fois qu'il entrait dans le labo, était gêné par la musique. Enfin bon, voilà, le gars. Alors que lui travaillait avec sa musique. C'était quand même assez original. Et puis on a Nolan Arismendi dans le film. On a Agathe Drone également, qu'on a vue, elle, dans beaucoup de séries télévisées. Donc Fais pas ci, fais pas ça, en 2010. Et puis Deux flics sur les docks aussi, on la voit dans cette série 2011, 12, 13, 14, elle était assez excellente, j'allais dire, Agathe Drone, dans ces séries-là. Alors, Éric Gravel, lui, voulait que Julie soit dans l'action permanente. Il a donc fait en sorte qu'elle exerce un métier de service qui ne s'arrête pas, même s'il y a des grèves généralisées. Et oui, femme de chambre dans un palace. C'est un sacré travail et ça ne s'arrête jamais. C'est un métier, dit-il, pardon, qui permet de montrer à quel point Julie est une femme de performance et une perfectionniste. Le métier de première en plus, première femme de chambre de palace n'est pas simple. Alors, en amont du tournage, Laure Calamy et d'autres comédiennes ont suivi une formation auprès des femmes de chambre. Chouette, ça, quand même. Ben, il fallait, parce que je crois que
Pour
n'importe
apprendre le
qui ne
métier,
peut pas
quoi.
être femme de chambre dans un palace. Je crois que ça doit demander une sacrée formation quand même, hein, je pense. Moi déjà, quand je passe l'aspirateur chez moi, je trouve que c'est très compliqué. Alors j'imagine dans un palace, femme de chambre. Non mais c'est vrai, c'est un métier, un vrai métier. L'action du film donc se déroule à Paris. Mais ce qu'elle voulait en fait, ce qu'Éric Gravel voulait en fait, c'est présenter, excusez-moi. Oula, présenter la capitale comme s'il s'agissait de n'importe quelle ville. C'était pas pour dire bon, c'est la capitale. Alors par ailleurs, il s'est inspiré de la façon dont on filmait New York dans certains films des années 1970. Ça explique un peu de quelle façon on voit Paris d'ailleurs, justement. Chouette film, ah, vraiment, hein, 1h25, là, ça vaut la peine aussi. Et puis se régaler avec ces acteurs, ces actrices qui sont excellents. Un
Ça
bonheur.
s'appelle À plein temps, donc avec notamment Laure Calamy.
Faut m'excuser, Damien, j'ai la voix qui. Ah, mais aujourd'hui, j'ai repris du service pour les
Ça, c'est les
corondeurs.
giboulées en
Il y
même
a beaucoup
temps.
de vent, il y a beaucoup de
Et
dégiboulés.
maintenant, on va continuer avec un film français du réalisateur Jean-Jacques Hano qui nous sort un film 3 ans après l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'est un film qui s'appelle Notre-Dame brûle. Et alors, ce n'est pas un documentaire, c'est vraiment un
Tout à
film, un
fait.
long
C'est en même
métrage.
temps documentaire, en fait. Oui, c'est ça. On peut prendre ça comme ça. Un long
Oui, mais
métrage de
c'est
fiction.
romancé aussi, enfin, c'est fictionné, quoi.
Ah oui, ah oui. Alors, notre drame brûle, ça dure 1h50. C'est un drame donc français. Tu as dit Jean-Jacques Haneau. Alors, moi, Jean-Jacques Haneau, évidemment, on ne peut pas ne pas aimer ce qu'il fait, cet homme-là. C'est pas possible. Réalisateur, scénariste, producteur français, il a 78 ans. Il a 59 ans de carrière, 21 tournages à son actif. 5 prix, 11 nominations. Moi, je pense qu'il devrait en avoir beaucoup plus pour moi. Bah oui, en 1988, c'était une sortie extraordinaire. L'ours, ça s'appelle L'ours. Ah, L'ours qui est un film qu'on peut revoir et revoir et revoir constamment, c'est-à-dire avoir un DVD chez soi de l'ours et le regarder en famille surtout, avec les enfants. Et c'est un. D'ailleurs, il avait reçu le César de la meilleure réalisation, ce qui me paraissait le minimum. Et puis on a eu en 1986 aussi, et c'était avant, voilà, je suis partie sur le dernier, Le nom de la rose, qui a eu un succès fou, qui a eu le César du meilleur film étranger, et c'était Sean Connery, qui a disparu, hein, aujourd'hui. Et c'était Sean Connery qui avait le rôle principal. Extraordinaire film également, avoir son DVD dans sa vidéothèque, c'est franchement possible parce qu'on peut le regarder de temps en temps, Le nom de la rose. Et puis, il avait eu aussi en 1981, pour La guerre du feu, qui est formidable aussi, le César du meilleur film français de l'année et le César de la meilleure, pardon, de la meilleure réalisation. Et il y avait Everett McGill dans les rôles principaux qu'on connaît. Enfin, quand on le voit, on le connaît, cet acteur. Et le film a été repris en 2003, au fait. La guerre du feu. Donc là, c'est Notre-Dame brûle. Et ben oui, qui n'a pas vu les images à la télévision sur ce drame? On a tous vu, plus ou moins, des séquences. Alors ce long métrage reconstitue heure par heure l'invraisemblable réalité des événements du 15 avril 2019, lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leur vie en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque. En tout cas, dans le film, il y a déjà deux femmes policiers, effectivement. Alors, on a, dans les rôles principaux, c'est un très joli casting. On a Samuel Labarthe. Ben justement, je parlais tout à l'heure de la série. Dans laquelle on retrouve Cyril Gaille, là, qui faisait le médecin, Les petits meurtres d'Agatha Christie, ben, le commissaire qui n'aimait pas la musique du médecin, c'était lui, Samuel Labarthe, le rôle principal de la série. Ensuite, on a Jean-Paul Bord dans le film, on a Jérémy Lahert, on a Michael Chérignan, on a Dimitri Storoge, ils sont tous connus, en fait, hein, quand on les revoit. On a Pierre Lottin, on a Ava Baya, on a Élodie Navarre, Chloé Joanet. Ah ben Chloé Joanet quand même. On le dit à chaque fois, ça peut peut-être l'agacer. Je ne sais pas, mais je crois pas, parce qu'elle doit être fière quand même de ses parents, puisqu'elle est la fille de Alexandra Lamy et Thomas Joanet. Chloé Joanet, et elle fait du cinéma comme ses parents. Donc c'est un très joli. Ah, on a, alors oui, qui joue dans son propre rôle, on a Anne Hidalgo dans le film. Ouais. Donc là, elle apparaît. Alors c'est en fait, c'est titré une expérience de cinéma inédite, l'histoire vraie des femmes et des hommes qui ont sauvé Notre-Dame. Ah oui, j'ai pas parlé aussi de. Oh oui, un film de Jean-Jacques Haneau qui était excellent en 1977, La victoire en chantant. qui a eu un Oscar des meilleurs films étrangers. Et c'était Jean Carmet qui s'y collait et qui était extraordinaire. Pareil, il manque beaucoup au cinéma, Jean Carmet. Et puis Catherine Rouvel aussi, excellent. Ah oui, c'est un film. Alors, fin décembre 2019, le président de Pathé, qui s'appelle Jérôme Seydoux, c'est un homme d'affaires, un milliardaire, qui est d'ailleurs le grand-père de l'actrice Léa Seydoux, qui est excellente, excellente. Et qui a donc. Ah oui, c'est un milliardaire, c'est la 82e fortune de France. Il a 88 ans. Et c'est lui qui a proposé à Jean-Jacques Haneau de faire un film de montage, d'archives à grand spectacle pour les écrans larges, avec son immersif, là, sur l'incendie de Notre-Dame. Alors Jean-Jacques Haneau nous dit, mon premier réflexe, c'était de craindre qu'il n'existe pas suffisamment d'images variées pour construire un film de 90 minutes. Mais j'écoute, j'écoute. Je repars avec une pochette de documentation, des articles en français et en anglais, avant d'aller me coucher, j'y jette un œil, nous dit-il. Maintenant, on sait ce que lit Jean-Jacques Haneau quand il va se coucher. Ah ben oui, il lit du cinéma. Voilà, ça tourne autour du Sénat. Et il nous dit, je dévore le tout jusqu'au milieu de la nuit. Voilà, on sait qu'il ne dort pas beaucoup non plus. Il était trop tard ou trop tôt pour appeler, mais ma décision était prise. Ce que j'y ai découvert était inimaginable. Une fascinante cascade de contretemps, d'obstacles, de dysfonctionnements, du pur, invraisemblable, mais vrai. Avec par-dessus le marché, tous les composants d'un scénario de fiction. Dans le rôle-titre, une star internationale, Notre-Dame de Paris. Son adversaire, un démon redoutable et charismatique, le feu. Et entre les deux, des jeunes gens humbles, prêts à donner leur vie pour sauver des pierres.
Sauver ou périr, c'est
Voilà ce qu'il nous dit.
le slogan des pompiers.
Ouais. Extraordinaire. Et il paraît que moi, il me tarde de le voir en entier, absolument. Je l'ai dit, je crois, 1h50. Il me tarde vraiment, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Beaucoup de Français étaient quand même très attachés à. Mais croyant ou pas, hein, peu importe, ce n'est pas une histoire de foi, c'est ce monument extraordinaire, quoi, Notre-Dame de Paris. C'est le Moyen-Âge, c'est toute une histoire autour de Notre-Dame de Paris, on y tenait quand même, effectivement. Saura-t-on jamais un jour ce qui s'est vraiment passé? La question s'est posée. Il n'y a pas de réponse dans l'immédiat.
Notre-Dame brûle donc de Jean-Jacques Haneau. Et on
Ouais.
reste avec une comédie française qui s'appelle Alors on danse. Et c'est une réalisation de Michel Larocque.
Alors on danse, oui, ça dure 1h27, comme il dit, donc, qui a été sélectionné au Festival de l'Alpe d'Huez 2022. Donc Michel Larocque, ben on la connaît parce qu'on l'a beaucoup vu à la télévision, hein, dans des pièces de théâtre, des films. Donc elle est réalisatrice maintenant, toujours actrice mais réalisatrice, elle est scénariste. Et elle a 33 ans de carrière, elle a 76 tournages à son actif, mais c'est surtout des tournages comme actrice, bien sûr, puisqu'elle a trois longs métrages. Ça, c'est son troisième long métrage. Hein. Le premier, c'était 2017, c'était Brillantissime, avec Kad Merad. Premier long métrage qui n'a pas été très, très bien reçu par. Ça n'a pas marché comme elle le souhaitait. C'était pas. Voilà. C'était peut-être pas ce qu'elle avait fait de mieux. Enfin, c'était son premier long métrage. Hein. Bon, donc, il n'y avait pas péril dans la demeure. Oui, c'est en 2021. Elle a réalisé Chacun chez soi. C'était avec elle, bien sûr. Elle
On en
joue
a
dans ses
parlé
films. Elle
d'ailleurs.
a l'âge de jouer dans ses films. Elle est encore jeune. Et il y avait Stéphane de Groot aussi. Alors, en fait, d'un côté, il y avait un gars qui collectionnait des bonsaïs en bâillissant. Et à côté de l'autre, il y avait un couple. Un jeune couple, leur fille à eux, à ce couple-là, et son copain qui devenait envahissant. Alors elle était perdue au milieu, là, avec ce mari qui collectionnait les bonsaïs, et sa fille et son copain qui devenaient extrêmement, comment on peut dire ça, qui devenaient permanents chez eux. Donc, c'est quand même un peu, voilà. Ça, c'était ce film qui avait eu quatre nominations à l'Alpe d'Huez. Hein. En 2020. Et puis là, on a Alors on danse. C'est une adaptation du long métrage britannique. Attention le titre, Finding Your Feet. Ben, ça veut dire trouver ses pieds, en fait, si on traduit littéralement. C'était de Richard Longcrane, qui est un réalisateur britannique. C'était, bon voilà, c'est adapté, elle a adapté ce long métrage. Alors c'est quoi l'histoire? Bien décidée à reprendre sa vie en main, après avoir découvert les infidélités de son mari, oh le vilain, Sandra se réfugie chez sa sœur Dani. À l'opposé l'une de l'autre, elles se retrouvent autour de leur passion commune, la danse, avec les pieds nickelés de la chorégraphie. J'imagine les pieds nickelés de la chorégraphie. Lucien et Roberto, des amis de sa sœur, Sandra trouve enfin la liberté et le grain de folie qui manquait à sa vie. Une nouvelle vie commence, parce qu'on a tous le droit à une deuxième.
Danse.
Vous, très bien, tu n'es pas tombé dans mon piège! Oh zut! Oh zut, c'est ballot! C'était un piège, mais chérie, mais oui, je croyais qu'il allait dire chance. Et il a dit danse. Ah ben voilà.
Oui, car le film s'appelle Alors en danse.
Alors on a donc Michel Larocque, c'est Sandra. On a Isabelle Nanty qui joue sa sœur, Dani. Isabelle Nanty, on l'aime beaucoup. Elle est drôle, elle a du talent, Isabelle Nanty. On a Thierry Lhermitte, enfin ils sont tous. Bon, le casting est très sympathique. Thierry Lhermitte, c'est Lucien. C'est un des pieds nickelés de la danse, hein, c'est tel qu'il dit. On a Patrick Timsit, c'est Roberto, le deuxième pied nickelé, pardon, de la chorégraphie. On a Jeanne Balibar, excellente. On a Antoine Duléry, on a Florence Muller, on a Armel. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu Armel. Ça fait plaisir de la revoir, Armel. Il y a Jean-Hugues Anglade, il y a Alison Paradis. Enfin, ils sont tous connus, il y en a encore beaucoup d'autres. Et c'est sympa comme tout. Michel Larocque nous dit, j'ai décidé de me lancer dans l'adaptation, dans une adaptation, en compagnie de Stéphane Bern-Lansen, la scène qui est un scénariste hein, avec qui elle travaille. Elle travaille depuis le début avec lui. Stéphane Bern-Lansen, ouais. Pour les séquences de danse, Michel Larocque a été épaulé par le danseur et chorégraphe Sofiane Chalal, qui est vice-champion du monde hip-hop, quand même. Je prendrais bien des cours aussi, moi, avec ce monsieur-là, parce qu'il doit être très doué. Alors, on danse.
Alors on danse donc de Michel Larocque.
Pas de prise de tête, c'est juste pour s'amuser.
Et maintenant, ça va être un biopic dramatique produit par Spike Lee et réalisé par Barry Alexander Brown. C'est le film Un fils du Sud.
Un fils du Suisse, un joli titre, ça.
Alors là, ça se passe aux États-Unis.
Oui. Ça dure 1h46, donc biopic, hein, drame. Il y a une nomination au Festival du cinéma américain de Deauville en 2021. Donc c'est d'après l'ouvrage de Bob Zelliner. Bob Zelliner, c'est. Alors le titre de l'ouvrage, ça c'est quelque chose quand même. The Wrong Side of Murder Creek, deux points, c'est pas fini. A White Southerner in the Freedom Movement. Alors,
Ce
j'ai
qui
un
veut
peu
dire.
traduit, on peut un peu traduire, c'est le mauvais côté du meurtre près du ruisseau, le sudiste blanc dans la liberté de mouvement. Voilà, ça encore, si on traduit littéralement, c'est un sacré titre quand même, ça, pour un ouvrage. Voilà, et donc, oui, à Barry Alexander Brown, tu l'as dit, donc lui, c'est un réalisateur, monteur, chef monteur britannique. Il a 61 ans, 37 ans de carrière, 26 tournages à son actif, et puis. Il a réalisé quatre longs métrages comme monteur et comme chef monteur hein, sur les 26 tournages entre 1979 et 2020, puisque j'ai bien dit qu'il était monteur, chef monteur. Alors le film, c'est son quatrième long métrage, hein, Barry Alexander Brown, et le film est produit par Spike Lee. Spike Lee, on le connaît, hein, scénariste, réalisateur, acteur, c'est un producteur américain. Spike Lee, et c'était lui, c'est bien lui qui, au Festival de Cannes dernier, c'est-à-dire avant, c'était pendant la Covid d'ailleurs, il n'y avait pas de spectateurs, mais c'était lui qui était le président du Festival de Cannes, Spike
D'accord.
Lee, et qui a fait deux, trois erreurs d'ailleurs. Il nous a un petit peu étonnés, il a cité des trucs, il s'est un petit peu trompé. Mais bon, c'est vrai que c'était une période quand même assez difficile hein, pour tout le monde. Alors, donc on a dit que c'était d'après cet ouvrage. Alors ça se passe en 1961. Bob Zelliner, petit-fils, c'est-à-dire l'écrivain, hein, celui qui a écrit l'ouvrage, petit-fils d'un membre du Ku Klux Klan, originaire de Montgomery, dans l'Alabama, est confronté au racisme endémique de sa propre culture. Influencé par la pensée du révérend Martin Luther King, Jr., et de Rosa Parks, Et oui, il est influencé par leurs pensées. Et en fait, on verra un peu le 13. Donc, oui, enfin, non, je voulais dire qu'il était influencé par Martin Luther King Jr. et Rosa Parks. Je voulais juste rappeler que Rosa Parks est un symbole de la lutte contre la ségrégation. Elle est devenue icône de cette lutte il y a 63 ans parce que, alors qu'elle rentrait fatiguée de son travail, elle s'est assise à l'avant du bus sur les places réservées aux Blancs. Elle a d'abord été emprisonnée, elle a été condamnée après une amende de $15 et elle a été libérée sous caution. Donc lui, il est influencé, c'est ça, je voulais dire quelques mots sur elle. Voilà, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle est décédée en 2005 à 92 ans. Donc il est influencé par la pensée de Martin Luther King Jr. et de Rosa Parks et il défie sa famille et les normes sudistes pour se lancer dans le combat pour les droits civiques aux États-Unis. C'était très courageux de sa part, étant donné qu'il était le petit-fils quand même d'un membre du Ku Klux Klan. Ça n'a pas dû être facile. On verra d'ailleurs dans le film à quel point c'est compliqué pour lui. Je ne vais pas en dire trop.
Et on ne peut pas dire que Ku Klux Klan soit très ouvert sur l'autre.
Ah ben le Ku Klux Klan, c'était horrible. C'était des meurtriers quasiment. Hein. C'est donc... Donc voilà, il a ce qu'on peut dire. Faut pas en dire trop parce qu'il faut aller voir le film. 1h46, je sais pas si je l'avais dit. Ouais. C'est terrible cette histoire d'ailleurs. En fait, si on peut quand même dire une chose par rapport à Rosa Parks, c'est que le 13 novembre 1956, la Cour suprême a voté la fin de la ségrégation raciale dans les bus municipaux. Grâce à elle. Et elle a poursuivi la lutte toute sa vie, en fait. Comme elle est morte à 92 ans, elle a été très utile à tout le monde. C'était une combattante extraordinaire, Rosa Parks.
Ouais. Et ça s'appelle donc Un fils du Sud.
Un fils du Sud, c'est le titre. Ah, ben là, on revient.
On revient en France.
Histoire de couple.
Avec un long film de 2h49 d'Ildiko Egnedi.
Oui, oui.
C'est un film qui s'appelle L'histoire de ma femme, avec notamment Léa Seydoux.
Et oui, ben justement, comme on parlait de son grand-père tout à l'heure, pour
le financement de Notre-Dame.
Merci, pour le film de Jean-Jacques Hano. Donc là, l'histoire de ma femme, oui. Alors, Ildiko, tu l'as dit, Ildiko Egnedi, c'est un réalisateur, scénariste. Non, c'est une, pardon. Oh là là, excusez-moi, madame Egnedi. Réalisatrice, scénariste hongroise. Elle a 66 ans, elle a 32 ans de carrière, 6 tournages à son actif. Elle a 24, un prix et 24 nominations. Elle a eu l'Ours d'or pour Corps et âme, qu'elle a réalisé en 2017. C'était avec Géza Markszanski, qui est un acteur hongrois très célèbre. Et il y avait une actrice hongroise qui est très célèbre aussi, chez elle, Alexandra Borbély. Donc là, le film a 12 nominations au Festival de Cannes 2021. On a dit, hein, c'est un drame romancé. C'est hongrois, allemand, italien et français. Tout le monde s'y est mis. Tu as dit 2h49, c'est très long, oui, effectivement. Mais je pense que ça vaut la peine. Jacob est capitaine au long cours. Dans cette histoire, un jour, il fait un pari avec un ami dans un café. Il épousera la première femme qui en franchira le seuil. C'est alors qu'entre Lizzie. Et Lizzie, c'est Léa Seydoux. Ah, qui ne fondrait pas devant Lizzie ? Léa Seydoux, justement. Et Jacob, c'est un acteur néerlandais qui s'appelle Gus Naber, qui est très connu chez lui. Et oui, et on a le formidable Louis Garrel aussi, et oui. On a Sergio Rubini, c'est un acteur italien. On a Jasmine Trinca, qui est une actrice italienne. On a Ulrich Mattes, qui est un acteur allemand. Et on a Romain Boringer, on est content de revoir Romain Boringer. On a Joseph Adair aussi, qui est un acteur autrichien. On a une actrice suisse, Luna Wedler. C'est un casting épatant. Ils sont d'un peu partout. Formidable. Moi, j'aime beaucoup quand on réunit comme ça des acteurs de plusieurs pays. Je trouve que c'est assez agréable. Et donc, Ildiko Egnedi, pour la première fois de sa carrière, n'est pas l'autrice d'un scénario original, mais elle adapte un roman. Et le roman est de Milan Fust. Alors, Milan Fust, c'est un écrivain soviétique. Et c'est un dramaturge, poète, etc. Enfin, voilà. Il a écrit ce livre très personnel pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que sa vie était menacée. Son roman est paru en 1942. Et c'est L'histoire de ma femme, c'est son roman le plus connu en fait. Et on a pensé en 1965 au prix Nobel pour lui. Et je me suis trompée, il n'est pas suisse, il est hongrois, pardon. Non, je me suis trompée, il n'est pas russe, pardon, il est hongrois. Je me suis trompée parce que le prix Nobel de 1965 qui devait lui revenir a été reçu par un soviétique écrivain, l'écrivain Mikhaïl Tcholokhov, qui est décédé en 1984. C'est lui qui l'a reçu. C'est pour ça que je me suis trompée dans les nationalités. Mais lui, le Milan Fürst, il est hongrois. Enfin, il était hongrois. Il est décédé en 67, 2 ans après le prix Nobel qu'il aurait dû avoir. Il avait 79 ans. Voilà, c'est pour ça que j'ai confondu les deux nationalités. Oh! Et voilà, ça, c'est quand même, c'est une très belle histoire. Le film comporte, et c'est pour ça qu'il est très très long, il comporte 7 titres de chapitre. C'est un sacré truc quand même, hein, c'est. Mais c'est, en fait, les 7 titres de chapitre ne sont pas tirés du livre. Ildikó Hegnédi, elle est revenue sur un choix comme ça. Le roman, elle dit que le roman est comme une longue divagation sous la forme d'un monologue intérieur. Donc, elle a remodelé l'histoire et elle a créé une sorte d'itinéraire pour Jacob. Hein, Jacob qui dit, j'épouserai la première femme qui passera le seuil. Voilà. Donc, c'est ça, quoi. Elle voulait des instants où encore et encore, Jacob fait le point sur ses erreurs et choisit une nouvelle approche dans l'espoir d'y arriver la prochaine fois. Voilà pourquoi. Ça explique la longueur du film, quand même, hein, ces 7 titres de chapitre. Le livre est plus court à lire, mes chéris, si vous achetez le livre. Si vous le trouvez, on le trouve facilement. Il est quand même plus court que la longueur du film. C'est quand même bon. Hein, faut pas avoir peur de l'acheter, quoi.
Et de se mettre dedans.
Trop long. Voilà l'histoire de ma femme.
L'histoire
J'ai été
de ma
claire à peu
femme.
près, hein,
Tout
parce
à
que
fait, oui.
me tromper dans les nationalités, j'aime pas trop. Un Hongrois et un. Ah oui, le prix Nobel. Ah oui, on en a entendu parler de cet homme-là, Mikhaïl Tcholkov. Ah oui. Ah, ça a balancé entre les deux. Ça doit faire un drôle d'effet quand on te dit que tu vas peut-être avoir le prix Nobel et que finalement, au dernier moment, il est donné à quelqu'un d'autre.
Ça doit être embêtant,
Un peu
effectivement. Oui,
frustrant,
tout à fait, oui.
hein? Oh, mais peut-être. Non, mais ce sont des poètes, des écrivains, des poètes. Peut-être qu'ils ne sont pas à ce point-là attachés à ce genre de choses, peut-être quand même. Ce sont des rêveurs aussi.
Et maintenant, ça va être un drame français d'Anaïs Volpé avec
Oui.
Souheila Yacob, Déborah Loukoumouena
Oui.
et Mathieu Langatte. Et ça s'appelle Entre les vagues.
Mais oui, entre les vagues. Ah. On n'y est pas encore entre les vagues. Ça dure 1h40, drame français. Oui, tu l'as dit, de Anaïs Volpé, réalisatrice, scénariste, actrice française. Elle a 33 ans. Et en fait, c'est assez rare dans ce métier. C'est une réalisatrice scénariste autodidacte. Elle est allée dans aucune école. Elle n'a pris aucun cours, alors que la plupart des réalisateurs sont passés souvent, hein, quand même, par des écoles, par des. Eh bien, elle, non. Pas de formation, rien. Autodidacte. Pas mal. Alors, c'est quoi son. Ah, mais elle a quand même là. Oh, pop, pop, pop. Que je n'oublie pas les 3 nominations à la quinzaine des réalisateurs 2021. Et elle a une. Ré. Elle a aussi. Non, elle en a deux à la quinzaine des réalisateurs. Et elle en a une nomination à Angoulême en 2021. Rêver, foncer. Tomber, repartir, rêver encore et recommencer. Ça, c'est le synopsis. Elles ont l'énergie de leur jeunesse, sa joie, son audace, son insouciance. Deux meilleures amies pour 2 années. L'envie de découvrir le monde. Margot et Alma ont 27 ans. Elles sont inarrêtables, inséparables. Alors, dans les rôles, on a. Le rôle de Margot est tenu par Souheila Yacoub, qui est une actrice suisse. On a dans le rôle d'Alma, son amie, on a Déborah Loukoumouena, qui est une actrice française, elle. On a Mathieu Longat et on a une actrice italienne dans ce film qui s'appelle Sveva Alviti, qui est connue en Italie. Et quand on la voit, on sait qu'on l'a déjà vue, même si on n'a pas trop retenu son nom. Donc, c'est titré « Anaïs Volpé touche Cannes en plein cœur ». Quand même. C'est une tempête d'émotions, c'est un premier film à couper le souffle. C'est une histoire bouleversante. Je ne sais pas si j'avais dit que c'était un premier long-métrage, mais je pense que non. Mais c'est son premier long-métrage, effectivement. Elle voulait parler, en fait, Anaïs Volpé, de ces grandes amitiés que l'on peut avoir lorsqu'on traverse des épreuves. Elle a voulu créer un duo très fort, iconique, composé de deux jeunes femmes de 27 ans, prêtes à tout pour vivre intensément. Ouais. Elle nous dit d'ailleurs, Anaïs Volpé, la réalisatrice, en arrivant à Paris, « Je ne connaissais personne, j'étais passionnée de théâtre. Je rêvais de réaliser un film et je devais pour vivre accumuler les petits boulots. J'ai fait des rencontres formidables et j'avais envie de rendre hommage à mes amis et à l'amitié entre les femmes dans le milieu de l'art. » Ça valait la peine d'être dit, ça, quand même. Entre les vagues.
Entre les vagues, donc, d'Anaïs Volpé.
Oui.
Et maintenant, ça va être une série de courts-métrages qui s'appelle Histoire de famille, où on retrouve cinq réalisateurs différents. Alors, c'est quoi cette histoire de famille ?
Ah oui, c'est quelque chose. Alors, histoire, d'ailleurs, c'est dans le titre, il y a histoire sur l'affiche, entre parenthèses S, de famille, entre parenthèses S. Donc, on sait, en lisant le titre, qu'on va avoir affaire à plusieurs familles, évidemment. Oui. Alors, c'est du drame, hein, c'est quand même. C'est français, c'est croate et c'est belge. Parce que les réalisateurs, on va le dire d'ailleurs en même temps, par exemple, on a Jean-Bernard Brault, qui est un réalisateur français, qui réalise 12 minutes, là. Ça s'appelle « The Sound of Water ». Et ça se passe à Osaka, un jour à Osaka.
Au Japon.
Oui, au Japon, Chisato a disparu sans un mot. Paul part pour Koyasan. Ah, j'ai dit à l'envers. Koyasan, oui, ça c'est une montagne sacrée dans l'espoir de la retrouver. Parce que Chisato, c'est une jeune femme. Le bruit de l'eau, the sound of water. Et puis on a Camille et moi. Réalisatrice Marie Cognier, qui est une réalisatrice française, ça dure 18 minutes. Camille et Marie sont amoureuses, mais sur leur histoire, tout le monde a son mot à dire. On va mettre des points de suspension. Et puis l'autre, alors le troisième, I'm not telling you, just saying. C'est de Sanja Mijardovic, ça dure 19 minutes. Elle est française et croate. Croato-française, on va dire. Alors, Zrinka est dans sa ville natale pour quelques jours pour faire des repérages pour le tournage d'un film. Pendant son séjour, elle dort chez sa mère, Tania. Le comportement de Tania se révèle inhabituel et Zrinka décide de l'emmener avec elle faire ses repérages pour comprendre ce qui ne va pas. La mère et la fille vont se rapprocher lorsque Tania réussira à exprimer sa douleur. Ensuite, on a Guillaume Doucet, réalisateur français, pour Better Man. Ça dure 11 minutes. Dans un groupe de parole, Dave, un quinquagénaire massif, partage son histoire avec difficulté. Au cours de son récit, les participants commencent à se lever un à un. Sympa. Point de suspension. Et puis enfin, le dernier, c'est Abada, réalisation de Jean-Benoît Hugueux, qui est un réalisateur belge et français. Ça dure 14 minutes. Le fils a écrit une bande dessinée sur son enfance. Il l'a envoyée à son père, qui vit dans le sud depuis des années. Mais le père n'a pas tellement envie de lire cette histoire. Pourquoi ? Dans laquelle il se retrouve à poil, une case sur deux. Et oui. Donc ça ne donne pas trop envie. Donc 5 films, 5 histoires au style très différent, qui décrivent les liens qui s'abîment ou des liens qui se consolident. Une mère et un père rongés par la honte, un couple qui se bat pour exister aux yeux de la société et avoir des enfants, une mère et sa fille qui se retrouvent, un père et un fils qui se rencontrent enfin. Voilà ce joli film quand même. C'est assez. Alors, dans les acteurs, on a Saki Azamiya, qui est une actrice japonaise. On a un acteur polonais, Maximilien Severn. On a un autre acteur japonais, Kentis Asaka. Et un autre acteur japonais, Kohei Suzuki, dans les rôles principaux. C'est très beau, ça. C'est très joli.
Et ça s'appelle Histoire de famille.
Et ça peut rendre service aussi. On peut pourquoi pas se retrouver dans un des cas. Il y a quand même 5 cas. C'est la vie ordinaire, la vie de tous les jours. Ils n'ont rien d'extraordinaire, les personnages. Ils sont comme nous. Voilà. Donc on peut peut-être retrouver des choses à soi.
On peut peut-être s'y retrouver tout simplement.
C'est toujours, oui, c'est toujours assez agréable ça. Histoire de famille.
Histoire de famille, donc, série de courts-métrages. Et maintenant, nous allons retrouver un drame de Sophie Taver-Massian qui s'appelle Belladone.
Oui, Belladone, oui, c'est un drame français d'1h20. Alors, tu l'as dit, Sophie Taver-Massian, c'est son premier long-métrage. C'est une réalisatrice, scénariste, décoratrice, monteuse française. Elle sait tout faire, Sophie Taver-Massian. Eh ben oui. Alors, c'est son premier... En fait, c'est son premier long-métrage. Elle avait réalisé un film d'études qui s'appelait Apparence et qui a obtenu le prix du scénario au Festival Ciné en Herbe. Et elle a réalisé 2 courts-métrages en 2009 et en 2018. Ça marchait fort pour elle. Du coup, elle s'est lancée dans son premier long-métrage. Bravo. C'est quoi, Belladone? Ben, Milly pleure. Baza, angoisse. Mado, encaisse. Séparée par le premier confinement de 2020 et en proie à la crise, les 3 amies se retrouvent le temps d'un week-end pour honorer la mémoire de Viviane, la tante de Milly, décédée de la Covid-19. Ce qui devait n'être qu'une escapade se révèle être un virage radical pour chacune d'entre elles. Alors on a Malina Loana Ferrante dans les rôles principaux, Julie Taver, Laurine Wolf, on a Gérald Robert Tissot dans ce film Belladone. Une jolie curiosité, ce film. Belladone.
Belladone au pluriel.
Oui.
Et maintenant, nous partons du côté de la Chine pour le film Money Boy.
Money Boys, oui, 1h56, c'est un drame. Alors, il est français, autrichien, belge et taïwanais. Ici, sont
pardon,
alors
je m'excuse, ce n'est pas la Chine, c'est Taïwan.
Et c'est Taïwan, oui. Il y a 8 nominations au Festival de Cannes 2021 et c'est réalisé par Tsi Bi-yi, qui est un réalisateur scénariste chino-autrichien.
Sino-autrichien.
Chino-autrichien. Il y a un avertissement, hein, des scènes, des propos et des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. On le note, Samy Chéri, parce que c'est toujours quand même assez important. S'ils le mettent, on en tient compte, effectivement. Alors c'est quoi? Ben, c'est pour subvenir aux besoins de sa famille. Le jeune Fei, originaire d'un petit village de Chine, se prostitue dans la grande ville. Alors dans les rôles, on a un acteur taïwanais qui s'appelle Kai Ko et qui joue le rôle de Fei. Oui. On a une actrice chinoise, Zhang Mai Weizi. On a un acteur chinois, Bai Yufan. Et on a un taïwanais encore, un acteur, J.C. Lin. Et on a encore un acteur chinois dans le rôle principal, c'est Un Zhengxi. Oui, j'ai fait des progrès pour les accents, ça va?
Tout à fait, tu ça parles va, très bien le taïwanais.
Oui, ça va, je vais pouvoir y aller là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit le réalisateur là-dessus quand même? En raison du manque d'argent et de temps, je n'ai pas pu rencontrer personnellement les acteurs, enfin surtout les seconds rôles d'ailleurs. Mais grâce à leur professionnalisme et à leur talent, nous avons réussi à créer une atmosphère réaliste. J'ai eu de la chance de travailler avec eux. Comme les héros du film, Sibi Yin, le réalisateur, vient d'un petit village de pêcheurs chinois au bord de la mer. C'est bien ce qu'il dit. C'est pour ça que je voulais parler de quand il a été interviewé, qu'il a dit qu'il les remerciait, alors qu'il ne les connaissait pas, qu'il ne les avait jamais vus. Je trouve que c'est bien. C'était bien de le dire, en tout cas, pour un réalisateur. Money Boys.
Money Boys. Et pour terminer les films ce soir, on retrouve un film brésilien d'Anita Rocha da Silveira qui s'appelle Medusa. Alors, c'est un film d'horreur.
Oui. Alors, Medusa, comédie dramatique, c'est fantastique aussi. Il y a de l'épouvante, il y a de l'horreur, mais comme c'est un excellent film, ça c'est pour les amateurs de ce genre qui marche très bien d'ailleurs, hein. Au contraire de ce qu'on peut imaginer, ces films marchent toujours très très bien, les bons surtout. Ça dure 2h07, il a 2 nominations à la quinzaine des réalisateurs 2021. Alors tu as dit Anita Rocha da Silveira, c'est une réalisatrice, scénariste, compositrice brésilienne, c'est son 2e long métrage. Elle avait déjà un court métrage à son actif, et le premier long métrage, elle l'a réalisé en 2017. Ça s'appelait Matemi, por favor. Matemi, por favor. J'ai mis l'accent. Vous remarquez, mes chéris, toi aussi, tu remarques, Damien.
Je remarque tout à fait.
Ah, bah, d'un, écoute, quand même, l'accent espagnol, puisque c'est de l'espagnol.
Et c'est du Brésil. Hein.
Oui, du Brésil.
Donc, ce n'est pas l'accent espagnol.
C'est un drame brésilien. Je vais le frapper, mes chéris. Vous permettez que je frappe le technicien, le chef d'antenne, là, ça va barder. Donc, c'est un drame brésilien et argentin. Ça veut dire tue-moi, s'il te plaît. Non, mais c'est pas à toi que je dis ça, Damien. Je traduis le titre. C'est pas parce que je vais te frapper que tu dois me tuer. Donc, c'est l'histoire d'une bande d'adolescents esseulés, tourmentés par une vague de meurtres et fascinés par la sexualité, la mort, les selfies, ah bah oui, et Jésus. C'était ça, le tue-moi, matemé, por favor, c'était ça. Donc là, on revient à Medusa. Ça se passe au Brésil aujourd'hui. Mariana, 21 ans, vit dans un monde où elle doit être une femme pieuse et parfaite. Pour résister à la tentation, elle s'attelle à contrôler tout et tout le monde. La nuit tombée, elle se réunit avec son gang de filles et ensemble, cachées derrière des masques, elle chasse et lynche celles qui ont dévié du droit chemin. Mais au sein du groupe, l'envie de crier devient chaque jour plus forte. Eh bien, elles ont des masques. Eh bien, on ne savait pas que nous aussi, un jour, on aurait des masques quand même.
Ce n'est pas le même type de masque.
Eh bien, oui, il y en a dans le film. Donc, il y a Marie Oliveira qui joue le rôle de Mariana. Ce sont tous des Brésiliens, hein, les acteurs. On a Lara Tremorou, on a Felipe Frazão dans les rôles principaux. 2h07, je crois que je l'avais dit. Alors, pour les amateurs, franchement, il est très bien fait. Mais pour les amateurs, hein, parce que pour les autres, oh là 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 là. Le titre, en fait, est une référence, ben oui quand même, au mythe de Méduse, qui est à l'origine une belle jeune fille, trop fière de sa beauté, qui est violée par Poséidon, le dieu de la mer, dans un temple dédié à Athéna, la déesse de la guerre. Aïe, aïe, aïe. Cette dernière, c'est-à-dire Athéna, la punit. Parce qu'elle a puni parce qu'en fait, elle est fière de sa beauté.
Et elle punit, ça l'agace. Elle punit Médusa, mais pas Poséidon.
Voilà, non, elle veut, elle peut pas, il est trop puissant, il est trop puissant. Par contre, elle l'a puni parce qu'elle est jalouse aussi, parce que l'autre est très fière de sa beauté, elle a pas aimé, elle la transforme, en fait, elle l'a puni en transformant ses cheveux en serpent et en lui donnant le pouvoir de pétrifier tout mortel qui croise son regard. Bon, on la connaît, Méduse. Et c'est ça, le titre, c'est une référence à cette Méduse. C'est ce qui va se passer dans le film, là, avec les filles, justement. Et alors, en fait, Anita Rocha da Silveira, la réalisatrice, en propose de cette histoire, elle propose une relecture moderne. C'est ça. Autrefois, symbole du mal et de la laideur, Méduse est désormais devenue un symbole du mouvement féministe. Et elle a même inspiré des marques comme Versace. Par exemple, Méduse, elle représente la rage contenue dans les femmes, une rage qui peut, lorsqu'elle est exposée, qui peut être, lorsqu'elle est exposée, contagieuse. Non, mais je ne l'ai pas encore, Damien, rassure-toi. Hein. Inutile d'avoir peur. Non, cette rage-là, non. Mais il y en a certainement qui l'ont, oui, certainement. Les jeunes femmes qui vivent, qui ont une vie... qui ont une vie très triste ou très qui sont maltraités, etc. Je pense qu'il y a de la rage, oui. Mais voilà, c'est Médusa. Alors, hein, les amateurs, là, hop, hop, hop.
Médusa,
On va voir
donc.
Médusa, mais bien
Et
sûr.
c'était le dernier film
Science-fiction.
proposé aujourd'hui. Et
Oui.
maintenant, ça va être deux documentaires,
Oui.
dont un premier qui nous propose des nouvelles du cerveau. Et cinq nouvelles du cerveau,
Alors
c'est
là,
une réalisation de Jean-Stéphane Bron.
on n'ouvre pas les crânes, mais on essaie de savoir. Alors, 5 nouvelles du cerveau, 1h45. C'est un documentaire suisse et français. Alors, Jean-Stéphane Braun, tu l'as dit, c'est un réaliste, j'allais dire réaliste, un réalisateur, scénariste, acteur suisse. Il a 24 ans de carrière, cet homme-là, 18 tournages quand même déjà à son actif, un prix et 13 nominations. Et mais oui, parce que par exemple en 2014, il nous a sorti un documentaire assez formidable qui s'appelle L'expérience Blocher. C'est l'histoire du leader politique le plus haï et admiré de Suisse qui s'appelle Christoph Blocher. Et puis en 2004, très bien marché. Et c'était en fait 2014, avant il y avait eu aussi un documentaire qui a très bien fonctionné en 2010, c'était Cleveland contre Wall Street, qui a eu le prix du public Paris Cinéma. Ça se passait, c'est l'histoire qui se passait en janvier 2008. C'était des avocats qui assignaient en justice les 21 banques jugées responsables des saisies immobilières qui dévastaient leur ville. Eh oui. Et les banquiers de Wall Street se sont opposés par tous les moyens à l'ouverture d'une procédure. C'était l'histoire d'un procès, cet autre documentaire, l'histoire d'un procès qui aurait dû avoir lieu. Extraordinaire, Cleveland contre Wall Street. On le trouve en DVD, hein, si on le veut. Alors, 5 nouvelles du cerveau, on repart sur le cerveau. Alors que les chercheurs découvrent peu à peu les mystères du cerveau humain, la course est ouverte entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Le réalisateur nous plonge au cœur de la science d'aujourd'hui à la découverte des travaux de 5 scientifiques au croisement entre le cerveau, la conscience et l'intelligence artificielle. Une aventure fascinante et vertigineuse. 5 nouvelles du cerveau. Oh, à choper, mes chéris, ou alors faut attendre le DVD qui va sortir très très rapidement. Ah ça, il nous le faut, il nous le faut. À vous et à moi, il nous faut ce DVD, il nous faut ce film, ce documentaire, absolument. 5 nouvelles du cerveau.
Cinq nouvelles du cerveau. Et pour terminer, ça va être un film qui s'appelle Funambule.
Un documentaire Funambule qui dure 1h15. C'est un documentaire français d'Ilan Klipper, qui est un réalisateur, scénariste, directeur de la photographie français. Il a 15 ans de carrière. Il a déjà 6 tournages dans sa petite valise. Et ça s'appelle, oui, on a dit Funambule. Le film alors est précédé du court-métrage Jukebox avec le chanteur Christophe. Il paraît qu'il est très bien ce court-métrage de Christophe, là. Bah, si on aime Christophe, et je crois beaucoup, on est beaucoup à l'aimer quand même. Hélas, paix à son âme, il manque beaucoup à la musique, Christophe. En tout cas, il y a un court-métrage juste avant le documentaire. Quelle est l'épaisseur du mur qui nous sépare de la folie? C'est une question. Personne ne sait de quoi il est fait. Personne ne sait jusqu'à quel point il résiste. Aube, Johan, Marcus, eux ont franchi le seuil. Ils vivent de l'autre côté du miroir. Alors, on a Aube, Martin, Marcus et Camille Chamou qui interviennent dans ce documentaire. L'autre côté du miroir, eh oui, c'est une question qu'on se pose souvent, ça. Qu'y a-t-il de l'autre côté du miroir? Et voilà, ma
Eh bien, très
foi.
bien, c'est parfait tout ça.
Oui,
Voilà les
Funambule.
sorties de cette semaine.
Très beau documentaire quand même, hein, Funambule, là. Mais on apprend des choses et puis il faut pas avoir peur d'aller de l'autre côté du miroir, tout compte fait. On y va tous un jour ou l'autre.
Et donc,
Voilà.
merci beaucoup Anne. Je rappelle aux auditeurs qui ont pu prendre l'émission en cours ou qui souhaitent avoir tous les détails
Oui.
d'aller sur notre site internet www.re2m.com et vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur ce même site. Vous allez dans la catégorie Conversation autour du cinéma et vous aurez toutes les infos.
Mais oui, bah écoute, adieu. Non, non, au revoir, au revoir. Au revoir, Damien. Bon, écoute, merci pour tout, là. Hein. Non, je ne l'ai pas frappé, au fait. Hein. Je le dis parce que...
Pas encore.
Non, pas... je n'ai pas encore frappé, mes chéris. Oh, ben non, quand même. Il est trop mimi, trop gentil. Non, puis j'ai besoin de lui, surtout. C'est pour pas... Il faut surtout pas oublier ça. Donc, mes chéris, je vous souhaite une excellente semaine, bien sûr. Soyez heureux le plus que vous pouvez. Je sais bien qu'en ce moment, on reçoit des nouvelles d'une guerre qui fait de la peine à bien des gens. Je sais pas, moi, je pensais... J'espère que vous n'avez pas... est-ce que vous avez de la famille là-bas? Peut-être des amis? On sait pas, hein, parce que après tout... L'Ukraine n'est pas si loin, hein, pour des touristes ou pour des gens qui travaillent éventuellement. Ben, en tout cas, on y pense. Si c'est le cas, on y pense. On espère que ça se passera bien. On a tous un peu mal au cœur avec cette histoire quand même. Et la radio, y pense beaucoup, beaucoup. Entre deux mers, on y pense, voilà. Et puis, mais quand même, hein, alors profitez de la journée qui passe surtout. Hein, n'oubliez pas, du matin au soir, carpe diem. C'est important. Et puis prenez soin de vous, de votre entourage, on continue, voilà. Et puis surtout, surtout, n'oubliez pas, et c'est tellement vrai, que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Yeux, tu sais.